Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et nous retrouvons avec plaisir, après deux semaines d'interruption, eh bien Jean-Pierre Foultier qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et nous arrivons du coup à la dernière de nos quatre chroniques de cette série intitulée « Un art européen du théâtre ». Vous nous en avez retracé l'histoire, alors du coup on se demande qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui.
Nous sommes arrivés jusqu'à ce 20e siècle qui a marqué un véritable renouveau du théâtre européen avec la place importante laissée à la mise en scène, mais également à la scénographie, cette conception du décor dans laquelle s'intègre de plus en plus la mise en lumière, quand ce n'est pas aujourd'hui l'apport de la vidéo. Le théâtre, ce n'est donc plus seulement un texte, si prestigieux soit-il, mais la façon dont il va être rendu sous des formes parfois audacieuses. En fait, c'est la pratique du jeu théâtral qui a été repensée au XXe siècle. Parmi les précurseurs de cette révolution théâtrale européenne, je citerai les noms du russe Stanislavski, du polonais Grotowski, qui l'un et l'autre redéfinissent le métier d'acteur, mais aussi dans les années 30-40, celui du français Antonin Artaud, acteur mais aussi théoricien du théâtre. C'est d'eux que se réclameront après mai 68 des troupes internationales d'avant-garde, comme le Living Theatre américain, au jeu très corporel et même parfois dénudé. Le théâtre a dû fortement se remettre en question, d'autant plus que depuis le début du siècle, c'est un autre art, le septième celui-là, qui menace de le concurrencer.
Vous nous parlez donc évidemment du cinéma. Il n'a pas tué le théâtre, ce cinéma ?
Pas plus que la télévision n'a tué le cinéma, non. Il est vrai que l'on pouvait craindre la concurrence déloyale de ce loisir de représentation comme le théâtre, accessible partout pour un prix modique. Et il est vrai que les statistiques vont un peu dans ce sens. En 2013, ce sont les chiffres les plus récents que j'ai trouvés, 28% des Européens déclaraient avoir assisté dans l'année à un spectacle de théâtre, alors que plus de la moitié était allé au moins une fois au cinéma. En fait, 28%, c'est loin d'être négligeable. Et l'on peut dire que, hors la dure période de crise que le secteur connaît actuellement, le théâtre se porte plutôt bien en Europe, avec de nombreuses compagnies, de nombreuses salles, des festivals. L'enquête montre aussi que, selon les pays, les résultats sont très variés. On sait que ce sont les Européens du Nord qui ont la pratique culturelle la plus poussée, beaucoup plus que les habitants des pays du Sud ou de l'Est de l'Europe.
Mais ça, c'est les chiffres donc de la fréquentation des théâtres. Qu'est-ce qu'il en est de la pratique théâtrale ?
Je n'ai pas pu recueillir, bien sûr, de chiffres précis sur l'ensemble de l'Europe. Il faut d'abord distinguer la pratique dite professionnelle du métier d'acteur de la pratique amateur auquel se livrent de nombreux Européens et dont on connaît en ville mais aussi dans les campagnes et pas loin de chez nous, les troupes souvent sympathiques qui pratiquent un théâtre sans prétention et qui sont tournées plutôt vers la convivialité. Mais pas seulement. Je connais des troupes de théâtre amateurs dont le travail comporte une réelle exigence artistique, comme cela a été le cas tout au long du XXe siècle du Théâtre du Peuple de Bussan dans les Vosges, qui depuis 1893 propose chaque année des spectacles de qualité, spectacles montés et joués au départ par des amateurs auxquels se sont joints depuis des professionnels. Un exemple de ce que, en Europe, on désigne sous le terme de théâtre populaire.
Ça, c'est un terme d'ailleurs qu'on pourrait peut-être définir.
Oui, je crois que c'est effectivement nécessaire. L'expression est apparue à la fin du 19e siècle pour désigner un théâtre exigeant, mais qui s'adresse non à une élite cultivée, mais à un public le plus large possible, et en particulier au public ouvrier jugé à l'époque le plus éloigné de l'offre culturelle. Un théâtre élitaire pour tous, selon la belle formule du metteur en scène français Antoine Vitez. Il s'affirme dès le début du XXe siècle en Allemagne, avec la construction du Volksbühne, théâtre du peuple, à Berlin, financé par une souscription populaire justement. Peu après, c'est en France qu'est institué le TNP, le Théâtre National Populaire, qui s'installera dans plusieurs salles parisiennes avant d'atterrir en 1972 à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. Et ce n'est pas un hasard si celui qui l'a dirigé dans les années 50, Jean Villard, est aussi à l'origine de ce qui deviendra le plus grand festival de théâtre au monde, le Festival d'Avignon. Un autre acquis de cette démocratisation de l'offre théâtrale, c'est le prix du ticket, souvent à peine plus cher qu'un ticket de cinéma, notamment dans le théâtre public subventionné, ce qui est plutôt, disons-le, plutôt une exception française.
Alors, je voudrais justement qu'on revienne sur ce qu'on disait en toute première chronique de cette série, la remise en cause de cette expression qui sous-entend que l'Europe aurait inventé le théâtre.
Oui, parce que le théâtre, l'art de la représentation, est présent dans toutes les civilisations. Mais ce que l'on peut dire en revanche, c'est que si l'Europe n'a pas inventé le théâtre, elle a construit depuis l'Antiquité un art européen du théâtre qui, à la fois, répond à une exigence artistique forte, dans la qualité de ses textes notamment, mais aussi dans la volonté permanente de montrer une image de la société dans laquelle ce théâtre s'inscrit. Le théâtre européen est un théâtre d'idées et de création, contrairement à d'autres qui, comme certains théâtres asiatiques, sont essentiellement des lieux de reproduction de la tradition.
Donc ça veut dire que si on veut résumer, il existe un théâtre européen ?
Le théâtre présente une unité qu'on ne retrouve pas dans le cinéma européen, qui est plus une addition de production nationale. Même si les genres théâtraux pratiqués en Europe sont très divers, entre comédie jusqu'aux comédies musicales, dont
très
nous
en
aurons
vogue.
Peut-être l'occasion de reparler, et théâtre, appelons-le sérieux, on peut dire, et je vais citer ici une formule que je trouve très juste, que l'Europe est un même pays théâtral. Et je vais encore faire une citation, celle en l'occurrence du penseur suisse Denis de Rougemont. Il n'est pas une seule des branches de notre culture qui ne résulte de mille échanges tissant l'œuvre commune des Européens. Et il n'en est pas une seule que l'on puisse étudier d'une manière sérieuse dans le champ limité par les frontières d'une seule de nos nations actuelles. Cette idée d'une culture commune européenne est celle qui anime mes chroniques depuis le début et qui s'applique parfaitement au théâtre européen.
Et ben voilà, pour cette conclusion, on est arrivé à la fin de la pièce. Jean-Pierre, j'ai donc envie de dire rideau.
Rideau, jusqu'à la semaine prochaine pour une autre série de chroniques.
Et un autre univers, suspense en attendant. On vous souhaite une excellente semaine.
Excellente semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu pour construire ensemble la communauté européenne de demain avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.